Beaucoup de fois dans notre vie, on prie après. Mais en réalité, la prière ne devrait pas réparer nos vies, elle devrait préparer nos vies. Et j'aimerais qu'on prie parce qu'elle commence demain, et j'aimerais qu'on prie en avance, et j'aimerais qu'on prie en amont, et j'aimerais vraiment que l'Église locale ici intercède pour cela, et vraiment que cette COP 21 se passe dans les meilleures conditions, et que spirituellement, on déjoue tous les plans du malin et de l'adversaire, et que ça se passe vraiment dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever, c'est égal, mais on va prier, après on va passer à la prédication. Père éternel, nous avons une responsabilité en tant que disciples de Jésus, c'est d'intercéder pour notre nation, c'est de prier pour ce qui se passe. Nous sommes le thermomètre spirituel de cette nation et la Bible nous dit « Ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans les cieux et ce que vous délirez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. » Une autre traduction dit « Ce que vous permettez sur la terre » sera aussi permis dans les cieux. Et ce que vous ne permettez pas sur la terre ne sera pas permis dans les cieux. Alors maintenant, nous saisissons l'autorité que Christ nous a donnée parce que tout pouvoir lui a été donné sur la terre et il a délégué cette autorité à son Église. Et maintenant, il est assis dans les lieux célestes et nous sommes assis en Christ avec lui dans les lieux célestes à la droite du Père. Et maintenant, Père, dans le nom de Jésus, nous déjouons tout projet qui serait amené à perturber cette convention, à perturber cette conférence sur le climat. Père, nous déjouons toute chose maintenant dans l'esprit. Nous déclarons que tout esprit malin ou tout esprit méchant est désarmé dans le nom de Jésus parce que Christ les a dépouillés à la croix et il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les dominations. Et Père, maintenant, nous saisissons cette autorité et nous nous mettons dans la brèche pour notre pays et pour cette convention. L'Église de Jésus-Christ ne permet pas que ces choses se passent dans cette nation. Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous nous sommes mis d'accord et nous disons Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous savez, il y a 15 jours, on a prié ensemble à la suite des attentats et c'était un tel bonheur de se retrouver, de prier ensemble. Et je crois que l'Église moderne et contemporaine, elle a besoin d'une chose, c'est de retrouver le bonheur de prier en tant qu'assemblée. Et peut-être qu'on prie un peu plus ces derniers dimanches ensemble, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On le fait dans les live groups, on le fait individuellement, mais quelque chose se passe. Quand les croyants et les disciples se mettent ensemble et prient ensemble et s'accordent dans la prière, c'est quelque chose de puissant et de dynamique. La semaine dernière, j'ai commencé une série qui s'intitule « Es-tu croyant ou disciple ?» et ce matin, je vais faire la deuxième partie et dimanche prochain, la troisième partie. Au mois de janvier 2016, je vais fêter mon 5e anniversaire à plein temps dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez bien qu'en 5 ans, des sermons ou des messages, j'en ai rédigé quelques-uns. Mais je ne pense pas qu'ils avaient l'importance de ce que je suis en train d'enseigner ces 3 semaines. Ce n'est pas que les autres messages n'étaient pas importants ou qu'ils n'étaient pas pertinents. Mais vous savez, certaines fois, vous partagez un message et les gens vous disent « Ah, c'était pour moi. Ah oui, j'avais besoin d'entendre ça. » Mais cette série de messages, elle est destinée à tout le monde. Et personne ne peut dire « ce n'était pas pour moi » parce que nous sommes tous appelés et mandatés par Jésus à devenir son disciple. Et je pense que c'est vraiment peut-être la série de messages la plus importante que j'ai jamais partagée en public, c'est celle-ci. Es-tu croyant ou disciple? Parce qu'on est vraiment en train de diagnostiquer le problème principal dans l'Église d'aujourd'hui par rapport à l'Église des Actes. Et le verset clé de cette série, c'est forcément Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Et le Seigneur Jésus lui-même dit ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ça, c'est la partie mandat ou c'est la partie ordre ou mission que Jésus donne. Et après avoir donné cette mission, il fait une promesse et il va dire « Et voici !» Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avions évoqué plusieurs choses à partir de cette écriture. Nous avions dit premièrement que Jésus n'a pas dit de faire des paroissiens ou de faire simplement des convertis ou simplement de faire des chrétiens qui se rendent dans une église locale le dimanche. Il a vraiment dit de faire des disciples. Et mon enseignement ici est vraiment d'expliquer la différence entre le croyant et le disciple parce qu'il y a non seulement une différence, mais une très grande différence. La deuxième chose que nous avions dite, c'est que ici le temps utilisé, c'est l'impératif, c'est-à-dire que Jésus, il ne donne pas juste une idée, une suggestion, une recommandation, il ordonne, il donne un ordre de mission au premier disciple qu'il a formé lui-même. Et le temps lorsqu'il a donné cet ordre de mission était très important parce que nous avions dit qu'il a donné cet ordre de mission, il était déjà ressuscité et c'était avant qu'il ne monte à la droite du Père. Donc il est entre sa résurrection et entre son ascension lorsqu'il a quitté ses disciples, lorsqu'il a donné son dernier message. Donc c'est finalement le dernier message que Jésus donne avant de monter au ciel. Et on sait qu'il est monté, mais on sait que la Bible prophétise qu'il va revenir. Et vous savez, si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le monde, les Juifs comme les chrétiens sont en train de dire que nous vivons des temps messianiques. Ça veut dire quoi? C'est que les Juifs sont en train, ou les rabbins juifs sont en train de prêcher et d'enseigner que nous vivons dans des temps messianiques. Donc pour eux, ils attendent la première venue de leur Messie, parce qu'ils ne pensent pas qu'il est venu une première fois. Mais nous, en tant que chrétiens, nous parlons de la seconde venue de Jésus, parce qu'il est déjà venu une première fois, et il est allé à la croix, et il va revenir sur la terre. Donc pour les Juifs, ça sera la première venue de Jésus, parce que pour eux, Jésus devait, ou leur Messie devait toujours établir un royaume sur la terre. Et nous savons que quand Jésus revient, il va instaurer ce règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Et Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais les Juifs comme les chrétiens sont en train de dire que nous vivons dans des temps messianiques. Donc tout le monde le sent, qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est en train de changer. Et ce que j'avais dit aussi à partir de ce verset de Matthieu 28, c'est que la carence principale dans l'Église moderne et contemporaine par rapport à l'Église des Actes, c'est le manque de formation de disciples. Qu'on a juste des gens qui croient ou nous avons juste des gens qui sont convertis, mais en réalité, ils ne sont pas en train de grandir et de mûrir dans le Seigneur pour arriver à ce statut de disciple que je suis en train de définir avec vous. La question qui nous anime, c'est « Es-tu croyant ou disciple ?» Mais c'est aussi celle-là. Si Jésus nous demande de faire ou de devenir des disciples, à quoi ressemble un disciple de Jésus? Comment on sait si on est arrivé? Comment je sais si je suis disciple ou pas? Et ça, c'était vraiment la question qui m'a fait réfléchir. Et c'est là que je me suis dit, si Jésus nous demande de faire des disciples, je dois trouver des critères dans la parole de Dieu, je dois trouver des exemples de disciples dans la parole de Dieu qui me montrent à quoi ressemble un disciple de Jésus. Et la semaine dernière et le week-end dernier, j'ai évoqué 4 disciples du livre des Actes. Nous avons pris exemple sur 4 personnes du livre des Actes et nous voyons à quoi ressemble un disciple de Jésus. Nous avions expliqué qu'un disciple de Jésus, premièrement, il annonce la bonne nouvelle. Et nous avions pris comme exemple Étienne, qui était un disciple de l'église locale de Jérusalem. Nous avions pris un autre exemple qui était Timothée et nous avons vu avec lui qu'un disciple est censé transmettre ou former ou enseigner d'autres ce qu'il sait sur le Seigneur. Parce que Paul avait recommandé à Timothée « Et ce que tu as entendu en présence de moi, confie-le à des hommes fidèles. » Et certains, vous savez beaucoup de choses, mais c'est le moment de confier à d'autres. Et que ces hommes fidèles soient capables de l'enseigner à d'autres. Et là, on voit plusieurs générations de transmission pour que l'Église puisse continuer d'avancer. Troisièmement, on avait pris l'exemple d'Ananias, qui était un disciple à Damas. Et je vous avais exhorté à lire Ésaïe chapitre 17, parce que Ésaïe prophétise la destruction de Damas, et nous savons que Daesh est à 150 km de Damas. Et lorsque vous voyez la ville de Sinjar, après le passage de Daesh qui a été reprise par les Kurdes au passage, mais c'est une ville qui est dévastée et détruite. Donc regardez bien Damas quand vous suivez l'actualité, parce que Ésaïe a prophétisé sa destruction. Et ce disciple Ananias, qu'est-ce qui faisait de lui un disciple? Comme Jésus, il imposait les mains. L'imposition des mains était une doctrine fondamentale de l'enseignement de Jésus. On trouve ça en Hébreux chapitre 6. Et donc, Ananias, un disciple, reproduisait cette imposition des mains. Et on sait qu'on impose les mains en tant que disciple pour deux choses. Pour la guérison divine, comme on a entendu avec les garçons et Wendy, et pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que Paul, il a recouvert la vue lorsque les mains ont été imposées sur lui. Et deuxièmement, il a été baptisé d'Esprit Saint. Pouf! Le package en entier. Et le quatrième exemple de disciple que nous avions vu, c'était Philippe, qui s'était mis ensemble, avec Étienne d'ailleurs, pour former une équipe de service dans son église locale de Jérusalem. Et comment ils avaient pris en main la distribution des veuves qui étaient délaissées et il avait apporté sa pierre à l'édifice. Et c'est la quatrième chose qu'un disciple de Jésus fait, et c'est en prenant exemple sur Philippe. Il n'est pas juste quelqu'un qui consomme, mais quelqu'un qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Ça va ? Est-ce qu'on est tous là? Si vous voulez la prédication en entier, grâce à l'équipe média, c'est à nouveau sur le site, vous pouvez écouter ces choses. Mais comme je dis, je ne sais pas si j'ai enseigné quelque chose de plus important que ces trois messages. Parce que c'est l'essence du message de Jésus. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on reprenne en acte 8, depuis le meurtre d'Étienne. Et là, on va lire quatre versets au début de acte 8. Parce qu'un événement majeur va se déclencher dans l'Église. Quand Étienne, un disciple du Seigneur, a été lapidé, en présence d'un certain Saul qui va devenir Paul, il y a une grande persécution qui s'est abattue sur l'Église. Et on lit ça en acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Les apôtres ont tellement bien enseigné les disciples dans l'église locale de Jérusalem, bien que persécutés et dispersés à Jérusalem, qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Est-ce qu'ils ont arrêté d'annoncer la bonne nouvelle ou ils ont continué d'annoncer la bonne nouvelle? Ils ont arrêté ou ils ont continué? Ils ont continué, bien que persécutés. Bien que des gens se lèvent contre le royaume de Dieu, bien que des gens se lèvent contre leur message, bien qu'ils soient persécutés et qu'ils soient dispersés en dehors de Jérusalem, les apôtres ont tellement bien transmis l'évangile de Jésus à ses disciples de Jérusalem que bien que persécutés et dispersés, ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est un disciple et pas un croyant. Quelles sont les personnes que les apôtres ont enseignées à Jérusalem? Nous savons qu'ils ont enseigné Étienne, qui est le premier martyr et qui est celui qui a été lapidé, nous l'avons évoqué la semaine dernière. Ils ont enseigné Philippe. Philippe qui a été dispersé dans la région de la Samarie. Et on sait que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas très copains. Mais Philippe, qui a tellement bien été enseigné par les apôtres, ils lui ont tellement bien transmis l'évangile qu'ils ont appris de Jésus, il prêche le Christ en Samarie avec des signes, des prodiges et des miracles. Ils ont aussi enseigné un certain Silas qui a accompagné Paul. Et la Bible nous dit que quand Paul et Silas étaient à Thessalonique, ils bouleversaient le monde connu. Ils ont reçu un bon enseignement, ces premiers disciples des apôtres, à un tel point que même persécutés et dispersés, ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Ça, c'est un disciple. Cette dispersion et cette persécution les a emmenés jusqu'où? Jusqu'à Antioche. Acte 11, verset 26. Pourquoi c'est important? C'est parce que là, les disciples du Seigneur Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. C'était à Antioche. Où se trouve Antioche? Antioche était une ville très, très importante à l'époque et très importante du Proche-Orient parce qu'elle était le carrefour entre l'Ouest et l'Est. Elle était environ à 500 km au nord de Jérusalem et en dehors, et dans le livre des Actes, vous avez deux églises locales très importantes. Vous avez l'église locale de Jérusalem, là où il y avait les apôtres du Seigneur, et il y avait l'église locale d'Antioche. Quelle était la différence entre ces deux églises locales? L'église locale de Jérusalem était d'origine juive. Tous les chrétiens qui étaient là étaient en réalité des juifs messianiques. De acte 2 à acte 10, ce n'est seulement une église juive messianique, c'était des juifs qui ont cru en Jésus. Et le premier païen ou non-juif à croire en Jésus, il arrive en acte 10, c'est Corneille. Donc l'église d'Antioche, elle n'était pas d'origine juive. C'était des chrétiens d'origine païenne, c'était des gens qui n'étaient pas juifs et qui se sont convertis à Christ. Et c'était ça la grande différence entre l'église locale de Jérusalem et l'église locale d'Antioche. Et l'église d'Antioche était très chère au cœur de Paul parce que c'est de là qu'il a été envoyé pour accomplir son ministère apostolique avec Barnabas. C'était l'église locale d'un certain Paul parce que Paul avait été mandaté par le Seigneur de prêcher l'évangile aux non-juifs. Et Pierre avait été mandaté par le Seigneur de prêcher l'évangile aux Juifs. Donc il est resté à Jérusalem et Paul était plutôt attaché à l'église d'Antioche. Et c'est à Antioche que la première fois le mot chrétien apparaît. Ils se sont dit, mais ces disciples, ils sont tellement comme Jésus. Ils enseignent tellement comme Jésus. Ils annoncent la bonne nouvelle comme Jésus. Il y a des signes, des prodiges et des miracles, mais on ne va plus les appeler seulement disciples, on va les appeler chrétiens. Et dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. Ils font comme Christ. Ils imitent Christ. Ils sont les modèles de Christ. Et c'est ça que ça veut dire chrétien. Et la grande différence entre l'Église des Actes et l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ils étaient d'abord disciples avant de devenir chrétiens. Ça veut dire que tous les chrétiens du livre des Actes étaient disciples du Seigneur, parce qu'ils étaient d'abord disciples. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un croit en Jésus et qu'il se convertit à Christ, il devient ce qu'on appelle chrétien. Chrétien, ça veut dire que l'Esprit de Christ demeure en nous. C'est ça que ça veut dire chrétien. Ce n'est pas parce que vous avez un grand-père qui était chrétien que vous êtes chrétien, ou que vous vivez dans un pays qui a une tradition chrétienne que vous êtes chrétien. Non, la vraie expérience chrétienne, c'est la nouvelle naissance, c'est quand l'Esprit de Christ vient demeurer en nous, raison pour laquelle on s'appelle chrétien. Mais en revanche, aujourd'hui, pas tous les chrétiens sont disciples. Parce qu'on est d'abord de nouveau, et maintenant, toute la vie chrétienne a pour objectif ultime de devenir disciple. Si vous voulez savoir le but de votre vie chrétienne, c'est de devenir disciple de Jésus. Si vous voulez savoir le but de l'église locale, c'est de devenir des disciples. Vous savez quoi? La société et le monde ne vont pas faire de vous un disciple de Jésus. Non. À ce moment-là, ça serait rempli de disciples. Et la société serait bouleversée. Il y aurait la bénédiction de Dieu partout. Non, c'est le rôle de l'église locale et de l'église de Jésus-Christ en général, c'est de faire de ceux qui croient des disciples. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, on a beaucoup de convertis, on a beaucoup de croyants, mais on en a peu qui sont vraiment décidés à devenir de vrais disciples de Jésus. Et ça, on avait dit que c'était le problème aujourd'hui. Que le mot « disciple » apparaît à 34 reprises dans le livre des Actes, alors que le mot « croyant » n'apparaît aucune fois. Donc ça veut dire que c'était des disciples, et ils étaient tellement disciples de Jésus, on va lui dire « maintenant, on va changer votre nom, on vous appelle chrétien ». Aujourd'hui, on est appelé chrétien, mais on n'a aucun critère, aucun facteur qui transparaît vraiment qu'on appartient à Christ. Donc maintenant, le but de notre vie chrétienne, et ça c'est pour tout le monde ici présent, c'est de devenir disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ces disciples qui leur ont fait dire ou qui les ont fait renommer ces personnes chrétiennes? Retournons donc, la semaine dernière, j'étais dans le livre des Actes, et nous avons vu 4 exemples de disciples dans le livre des Actes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne l'évangile de Jean comme cadre de référence. Pourquoi? Parce que c'est là où Jésus lui-même donne les critères pour devenir un de ses disciples. Donc là, ce n'est pas quelqu'un qui invente quelque chose, c'est Jésus lui-même qui a dit, si tu veux être mon disciple, voilà le critère. Et il y en a 3 dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, je vais prendre l'évangile de Jean comme cadre de référence, et le week-end prochain, l'évangile de Luc. Okay? Et là, je vais terminer la série. Et donc aujourd'hui, l'évangile de Jean. Le premier critère qui fait d'un chrétien vraiment un disciple de Jésus, c'est qu'un disciple de Jésus demeure dans la parole de Dieu. Et on lit ça en Jean 8, versets 30 à 32. Jésus lui-même dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez qu'il y avait des gens qui croyaient en lui. Mais Jésus va dire, si vraiment tu crois en moi, maintenant je vais t'emmener plus loin. Je vais faire de toi un disciple. Et il va donner le moyen pour devenir un de ses disciples. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, parce qu'au début, le message de Jésus était principalement destiné aux brebis perdues d'Israël. Donc c'était principalement des Juifs sous le ministère de Jésus qui se convertissaient à lui, qui croyaient en lui. Et maintenant Jésus, vous croyez en moi? Bien, mais voilà la suite. Deviens mon disciple. Comment devenir disciple? Il le dit ici, si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Ah, ça veut dire que s'il utilise vraiment, c'est qu'il y en a certains qui prétendaient être disciples, mais qui ne l'étaient pas. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, demeurer dans la parole? Si c'est un critère pour devenir disciple de Jésus, regardons ce que cela ne signifie pas d'abord. Je vais remettre la citation de Gandhi, parce que certains m'ont dit « Oh là là, cette citation, elle m'a vraiment travaillé. » Ça me parle, parce que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur sur les chrétiens. Il dit ceci, en parlant des chrétiens et de leur approche de la parole de Dieu. Il dit « Vous autres chrétiens, vous avez entre vos mains un livre qui contient suffisamment de dynamite pour réduire en miettes toute la civilisation, renverser le monde, faire de ce monde dévasté par la guerre un monde de paix, en paix. Mais vous, faites comme s'il s'agissait juste d'un morceau de bonne littérature et rien de plus. Je ne sais pas quelle est l'approche que vous avez de la parole de Dieu, mais si vous pensez que c'est juste un petit livre de littérature, que c'est juste un petit roman que vous chatouillez de temps en temps, vous n'êtes pas en train de demeurer dans la parole, parce que demeurer dans la parole, ça veut dire qu'on habite dans la parole de Dieu et que toute notre vie est basée sur la parole de Dieu. Elle est le socle, elle est notre fondation, elle est la façon dont on raisonne, on renouvelle nos pensées par elle. Ça, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est ne pas demeurer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans la parole de Dieu? Paul, Sylvain et Timothée écrivent aux Thessaloniciens et ils félicitent les Thessaloniciens en leur disant « La parole que vous avez reçue, vous ne l'avez pas considérée comme la parole des hommes, vous l'avez considérée comme la parole de Dieu et vous avez cru en cette parole et elle est efficace parce que vous croyez en elle. » Donc, un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il ne considère pas la Bible comme la parole des hommes. Il considère la Bible comme la parole de Dieu, inspirée du Saint-Esprit, qui le change, qui le transforme, qui le corrige et qui le transforme au statut de disciple. Mais si vous considérez ce livre comme la parole des hommes, on ne peut pas demeurer dans la parole, on ne peut pas demeurer et devenir disciple. Ce livre, ce n'est pas un livre comme les autres, ce n'est pas un roman, ce n'est pas juste un livre de chevet, c'est la parole de Dieu dans lequel nous devons demeurer pour devenir disciples de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et on considère ce livre comme l'autorité finale. Ça, il y a des gens qui essayent de changer la parole de Dieu. Il y a même des théologiens qui disent « Oui, mais là, il y a des contradictions, etc. Est-ce qu'on peut vraiment croire ci? Est-ce qu'on peut vraiment croire ça ?» Voilà la différence entre un croyant et un disciple. Un croyant, il essaye de changer la parole de Dieu pour que ça le chatouille et que ça soit agréable pour lui. Les parties qu'il n'aime pas, il va dire « Ah, ça, il ne faut pas vraiment croire. Je prends juste ça et j'enlève ça et je fabrique mon propre évangile. » Mais le disciple, il n'essaye pas de changer la parole de Dieu. Il se laisse changer par elle. Ça, c'est la différence. Et si vous lisez des passages qui vous chatouillent un peu et qui vous remettent en question, c'est bon, parce que Dieu dit qu'il corrige ses enfants par amour. Et si on n'est jamais corrigé dans notre vie chrétienne, c'est simplement que comme la fusée, on est en train de partir dans une mauvaise trajectoire. Mais vous savez qu'une fusée, pour qu'elle arrive à bon port, on doit sans cesse corriger la trajectoire. Si Dieu nous corrige, c'est qu'il est en train de nous remettre sur les pas de notre destinée. Et c'est le rôle des ministres de l'Évangile, c'est le rôle de la parole de Dieu que certaines fois, nous devons nous faire corriger. Mais certaines fois, je lis la parole et on ramasse des baffes. Mais c'est bon. C'est sain. S-A-I-N et c'est sain, S-A-I-N-T, de se faire corriger par la parole. Mais voilà la différence. Je n'essaye pas de la changer, je me laisse changer par elle. Et aussi, quand on considère la Bible comme la parole de Dieu et pour demeurer dans la parole, on met le « mais » à la bonne place. Voilà le croyant, il va dire ceci. « Je sais que la Bible déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais tu sais, la situation actuellement est vraiment difficile. J'ai vraiment des défis insurmontables à monter. Je ne sais pas si Dieu va vraiment être présent avec moi. Je ne sais pas s'il va prouver ça. » Et on met un doute à la parole de Dieu. Voilà ce que fait le disciple. « Je traverse des moments très difficiles en ce moment. Je suis défié dans plein de domaines. Mais la parole de Dieu déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je sais que c'est difficile actuellement dans mon emploi. Il n'y a pas de problème à expliquer la situation. Mais après, vous dites, mais mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Et vous mettez le mais après votre situation et vous déclarez la parole de Dieu dans votre situation. Ça, c'est demeurer dans la parole. C'est laisser la parole être l'épée, cette épée à double tranchant qui est notre arme offensive. Et dans le livre des Actes, à chaque fois qu'il y avait plus de paroles, il y avait plus de disciples. Plus de paroles, plus de disciples. Plus de paroles, plus de disciples. En d'autres termes, la parole de Dieu et la formation de disciples sont indissociables. Vous ne pouvez pas séparer la parole du discipulat. Impossible. Regardez Actes 6, verset 7. On voit ici que la parole de Dieu, elle se répandait. Elle se répandait beaucoup ou elle se répandait peu? Elle se répandait de plus en plus. Et qu'est-ce qui est arrivé au nombre des disciples? Est-ce que le nombre de disciples, il a diminué ou il a augmenté quand la parole de Dieu augmentait? Il a augmenté. Donc, plus de paroles, plus de disciples. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Actes 12, verset 24, nous dit exactement la même chose. Plus de paroles, plus de disciples. Donc, le but de chaque vie chrétienne, écoutez-moi bien, c'est de devenir disciple. Quel est le moyen pour y arriver? La parole de Dieu. Cependant, Actes 12, 24, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se répandait. Elle se répandait un petit peu ou de plus en plus? De plus en plus. Qu'est-ce qui est arrivé au nombre de disciples? Est-ce qu'il a diminué ou il a augmenté? il a augmenté. Plus de paroles égale plus de disciples. Mais quel est le fruit dans ma propre vie quand je demeure vraiment dans la parole de Dieu? La Bible nous promet la liberté, parce que la parole de Dieu est la vérité et la vérité nous rend libres. Donc je vais expérimenter vraiment cette liberté, parce que les gens ils disent, mais Christ a payé pour nous. Il a payé pour notre liberté, mais pourtant je ne suis pas libre. Ben oui, c'est parce que dans nos pensées, on n'est pas encore libre. Et il faut renouveler les pensées et voir que la victoire a été acquise pour nous. Vous savez, le besoin le plus pressant dans la vie d'un chrétien, c'est le renouvellement de son intelligence par la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il va comprendre qu'il a déjà la victoire en Christ, il va expérimenter la liberté. Mais ce qui nous empêche d'expérimenter ce qui a déjà été fait pour nous, c'est le manque de renouvellement d'intelligence par la parole. Donc, quand je veux plus de paroles, plus de liberté. Deuxième chose, lorsque je demeure vraiment dans la parole de Dieu, ma vie de prière va commencer à déménager. Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que... Demandez, il y a là la prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jean 15, verset 7, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc là, on voit qu'on commence à avoir une vie de prière très efficace. Mais qu'est-ce que je vais demander si sa parole demeure en moi? Je vais demander en accord avec la parole. Et donc, ça va avoir une prière efficace parce que je prie selon la volonté de Dieu. Quand ces paroles demeurent en moi, je ne demande pas n'importe quoi et je ne demande pas des choses que Dieu ne peut pas bénir. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous savez, quand je prie pour les gens me donnent... Vous n'avez pas besoin, si vous me demandez à moi la prière, ne développez pas pendant 5 minutes ce que vous êtes en train de vivre. Vous me dites finance. Ok, finance, j'ai déjà 3 versets pour vous. Je vais déclarer ces versets dans votre vie. Je prie la parole de Dieu pour les gens. Je ne prie pas mon opinion, je ne prie pas mon intelligence, je prie la parole. C'est ça qui est efficace. Mais il faut que la parole demeure en vous et qu'on la mange comme Ézéchiel qui la mangeait. Il faut qu'on la mange. Si ça fonctionne, j'aimerais vous montrer une vidéo. Parce qu'en Occident, on est tellement dans notre carcan qu'on ne sait même pas ce que les autres chrétiens sont en train de vivre. Et j'aimerais vous montrer des chrétiens chinois qui vont découvrir leur propre Bible pour la première fois. Et j'aimerais que vous remarquiez l'émotion de ces chrétiens qui ont la parole de Dieu pour eux-mêmes. Regardez ceci, ça ne va pas vous laisser indifférent. Donc là, il n'y a pas la traduction d'anglais, je ne comprends pas le chinois, pour vous rassurer, mais elle est en train de dire c'est ce dont nous avions le plus besoin. Ça dure juste une minute, mais certaines fois, une image vaut mille mots, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien vous avez de Bibles à la maison, mais si elles sont toutes fermées, ça ne fonctionne pas. Parce que la Chine, pendant des centaines d'années, a été fermée à l'Évangile. Et les chrétiens qui étaient là, les missionnaires qui ont été là, ont été persécutés. Il y a beaucoup de chrétiens en Chine maintenant, mais la plupart sont sous des églises souterraines, parce que si les gouvernements les trouvent, ils risquent de se faire persécuter, voire de se faire... ils risquent de les tuer. Mais maintenant, la Chine commence un petit peu plus à s'ouvrir. Mais j'aimerais juste vous faire comprendre que ces personnes n'ont pas eu la parole de Dieu qui est arrivée comme ça sur un plateau. Et c'est la première fois qu'ils ont une Bible pour eux-mêmes. Et j'aimerais juste vous encourager à lire la parole de Dieu. Elle l'a considérée comme un trésor. Mais vous savez, si vous avez un trésor et vous découvrez un trésor et vous n'ouvrez pas le trésor, et vous avez déjà vu les films où ils trouvent le trésor et ils n'ouvrent pas le trésor? On ouvre le trésor. Demeurez dans la parole de Dieu. Deuxième chose qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Pour quelqu'un qui veut passer de croyant à disciple de Jésus, c'est la chose suivante. C'est qu'un disciple de Jésus, il est en communion fraternelle avec d'autres disciples. Un croyant pense qu'il peut vivre sa foi tout seul. Un croyant pense qu'il peut vivre sa foi esselée. Un croyant pense qu'il peut vivre sa foi isolée. J'ai cru ça pendant les 2 premières années de ma vie chrétienne, mais je me suis bien trompé. Et j'étais bien ignorant à l'époque. Vous savez quoi? Un disciple de Jésus, Il ne vit pas isolé. Il ne vit pas dans une petite tour d'ivoire. Il vit en communion fraternelle avec d'autres disciples. Pas la communion virtuelle, pas Facebook, la communion fraternelle, la vraie. Là où on voit des gens, là où on prie avec les gens, là où on étudie la parole avec des gens, là où on s'exhorte les uns les autres. Ça, c'est la communion fraternelle. Aujourd'hui, si vous voulez vivre la communion virtuelle, très bien, mais vous savez quoi? Ça n'aura jamais le même impact que la communion fraternelle. Le fait de se déplacer, d'aller dans une maison et de prier avec d'autres personnes. Vous savez, quand j'étais en Suisse, ce n'était même pas un programme d'église, mais on se retrouvait avec 4 jeunes hommes, 2 églises représentées. On était 2 d'une certaine église et 2 autres d'une autre. Et on se retrouvait tous les dimanches soirs pour simplement la communion fraternelle. On discutait ensemble de notre week-end, on préparait dans la prière, la semaine en avance que nous allions vivre. Nous échangeions, nous passions des temps merveilleux. Certaines fois, on commençait à 20h, on finissait à minuit. Certaines fois, on lisait une écriture, d'autres fois, on priait. Ce n'était pas un programme d'église. C'était juste des chrétiens qui avaient le plaisir de se retrouver et de communier ensemble. Mais vous savez que si vous ajoutez ça à vos célébrations d'église, mais votre foi va commencer à décoller. Et est-ce que je vais avoir la communion fraternelle avec tout le monde dans l'église? Non, il y aura 2, 3, peut-être 4 personnes avec qui vous allez vous sentir beaucoup plus proche, mais ayez la communion avec ces personnes. Dans l'église, on a les live groups, c'est peut-être le meilleur moyen d'avoir la communion fraternelle, mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans un live group, commencez à approfondir vos relations avec d'autres personnes. Et quand vous avez un problème, quand vous avez une difficulté, appelez cette personne et priez ensemble, unissez-vous dans la prière. C'est ça la communion fraternelle. Et Jésus dit ceci en Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et là, il va donner le critère pour celui qui veut être son disciple. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? Là, il va donner un si, il va donner une condition. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il ne parle pas de l'amour du monde ici. Il parle de l'amour entre disciples. Il parle de l'amour fraternel ici. Donc, être disciple, c'est quoi? C'est répondre au plus grand mandat, à la grande mission, annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples, mais c'est aussi répondre au plus grand commandement que Jésus a donné, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, si vous répondez à ces 2 choses, vous êtes vraiment disciple de Jésus. Et vous savez quoi? La grande force de l'Église des Actes. Première chose, je l'ai évoqué la semaine dernière, c'était premièrement que c'était des disciples et ce n'était pas des croyants. Mais ce n'était pas juste des disciples esselés et isolés. Il y avait la communion fraternelle entre ses disciples. Ils étaient soudés, ils étaient unis. Même quand il y a eu la persécution, je peux vous dire que là, il faut commencer à être unis. Et moi, je vous dis, si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de la communion fraternelle avec d'autres disciples, c'est que votre vie chrétienne ne porte pas de fruits. Je suis désolé. Parce que lorsque votre vie chrétienne commence à porter du fruit, il y a la persécution qui va commencer à se lever contre vous, il y aura des obstacles contre vous, parce que le royaume des ténèbres va commencer à se réveiller autour de vous. Mais c'est bon, c'est parce que vous êtes en train de faire une différence pour le royaume de Dieu. Certains, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres chrétiens. Mais vous savez quoi? Certains, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'église locale. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin d'église locale, ta vie chrétienne, elle est plate, elle est sans saveur, il n'y a pas de sel et il n'y a pas de lumière. Parce que quand vraiment tu commences à impacter le royaume de Dieu, quand je suis parti en Afrique du Sud et je me suis ramassé un coup de marteau parce que j'avais enseigné la parole de Dieu pendant une semaine et j'étais tellement content dans mon esprit de ce qui avait été semé, des échanges, de communion fraternelle, etc., que c'était vraiment démoniaque cette attaque-là en plein. C'était le 14 février en plus, je partais le jour même pour rejoindre ma femme. Et je me fais harceler à coups de marteau, on me vole ma sacoche, etc. Mais qu'est-ce que c'était bon de revenir ici, dans ce que je considère mon assemblée, et de dire, je reviens vers les miens, ceux qui m'aiment, ceux qui me soutiennent, ceux qui prient pour moi. Et vous savez quoi? Si vous n'arrivez pas à dire que cette église, c'est mon église, c'est que ce n'est pas encore votre église. Si vous n'avez pas à dire, c'est mon église, c'est notre église, si vous dites tout le temps, c'est votre église, ce n'est pas ton église. Je suis désolé. Si vous pensez que c'est l'église des pasteurs, que c'est l'église des responsables, ce n'est pas ton église. Parce que Pierre et Jean, après avoir été arrêtés pour avoir prêché au nom de Jésus, ils ont été relâchés et la Bible nous dit qu'ils sont allés vers les leurs. Vers ceux qui considéraient les leurs, vers les miens, vers ceux que j'aime, vers ceux avec qui je vais trouver leur réconfort. Parce qu'on est en train d'impacter tellement le royaume de Dieu qu'on s'est fait emprisonner. Mais maintenant, c'est le temps de retourner vers les nôtres. Vers là où on a la communion fraternelle, là où on va être ressourcé, là où on va être fortifié dans le Seigneur. Parce que c'était dur, cette période-là. Et vous savez quoi? Paul, lorsqu'il se convertit à Christ à Damas, la première chose qu'il a faite, c'était de chercher la communion fraternelle avec d'autres disciples. Et la Bible nous dit quand il a trouvé cette communion avec les autres disciples, il se fortifiait dans le Seigneur. Je vais aller plus loin. Je pense que Paul, sans le secours des autres disciples, n'aurait pas survécu et on n'aurait pas eu toutes les épîtres qu'il a écrites. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment, les Juifs voulaient le tuer. Les Juifs voulaient lui ôter la vie. Et grâce au secours des disciples en acte 9, ils l'ont mis dans une corbeille et ils l'ont descendu de la muraille pour pouvoir l'exfiltrer. Parce que s'il était resté là, il se serait fait assassiner. Paul, sans les disciples, serait mort. C'est même un disciple, Ananias, qui a lancé le ministère apostolique de Paul. Pensez que c'est petit d'être disciple, c'est grand d'être disciple. C'est prestigieux d'être disciple. Jésus n'a jamais, jamais baissé la barre. Il a toujours monté, monté, monté la barre. Et tant que je serai en train d'exercer le ministère dans cette église, je ne vais jamais, jamais, jamais baisser la barre. Je vais toujours monter, 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 monter la barre. Pourquoi? Parce que Jésus montait toujours la barre. Et Paul, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il a cherché la communion avec d'autres disciples. Et ces disciples-là, ils avaient entendu qu'il avait été responsable du meurtre d'Étienne. Du coup, ils étaient effrayés. On dit, ce Paul, on n'est pas sûr que ce soit vraiment un disciple du Seigneur, donc on ne va pas s'associer avec lui. Vous savez quoi? Grâce à Barnabas. Barnabas a été le lien entre Paul et les disciples de Jérusalem. Et il a soutenu Paul. Il a dit, oui, c'est vraiment un disciple de Jésus maintenant. Il a prêché franchement au nom de Jésus. Acceptez-le parmi vous. Il a besoin de la communion fraternelle avec d'autres disciples. Je le redis une fois. Si Pierre, Jean et Paul avaient besoin d'autres disciples autour d'eux, je crois que j'ai assez de bon sens pour dire que j'ai besoin d'autres disciples autour de moi. Et si je pense que j'en ai pas besoin, c'est simplement que ma vie chrétienne, elle est plate, elle est ennuyeuse et qu'elle ne porte pas de fruits. Je laisse un petit peu descendre. Un petit peu décanter les choses. Ce mot communion fraternelle, c'est le mot grec koinonia, qui veut dire qu'on est partenaire, qu'on est intime, qu'on est en association, qu'on est en communication, qu'on est en communion. En d'autres termes, en langage courant, on se tient les coudes. Et qu'est-ce à quoi ressemble une vraie communion fraternelle? Là où je suis valorisé, là où je peux être authentique avec les autres, là où je peux être intime avec d'autres, là où je peux partager avec d'autres, là où je peux échanger avec d'autres. Ça, c'est la communion fraternelle. Vous pouvez la trouver dans un live group ou alors en approfondissant vos relations avec des gens d'ici ou peut-être même de quelqu'un d'autre église, peu importe. Mais approfondissez vos relations chrétiennes, qu'elles aillent au-delà de « bonjour, comment ça va ?» Est-ce que je vais avoir cette communion intime avec toute l'église? Non, peut-être avec 2-3 personnes. Mais vous savez, j'ai fait un enseignement avec les ados, on a parlé de nos 3 meilleurs amis et à quel point on avait besoin de 3 meilleurs amis autour de nous pour pouvoir être bien entourés. On a regardé un peu les qualités que devraient avoir ces amis. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai la communion fraternelle? Quel est le fruit dans ma vie quand je suis en communion fraternelle avec d'autres disciples? Jésus dit, les autres, ceux qui n'appartiennent pas encore à Christ, vont vraiment reconnaître que j'appartiens moi à Christ. Il dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous allez vraiment être reconnus comme mes disciples. Et la troisième chose, qui est en fait la combinaison des deux premières, c'est qu'un disciple de Jésus, selon Jésus, dans l'évangile de Jean, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez que Jésus, il ne baisse pas la barre. Il ne dit pas, si vous portez un petit peu de fruits, à ce moment-là, vous serez qualifié de mon disciple. Non, non. Il dit, si vous portez beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez, quoi? Mes disciples. Donc, je ne sais pas, évaluez votre vie chrétienne un petit peu. Est-ce que vous pensez que vous portez du fruit ou pas? Mais là, la Bible dit très clairement que c'est ceux qui portent beaucoup de fruits qui sont reconnus comme les disciples du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire porter beaucoup de fruits? Parce que cette question a été posée dans un live group et c'est une bonne question. Ben, si vous pensez à un arbre ne mange pas son propre fruit. Le fruit est destiné aux autres. Donc un disciple qui porte beaucoup de fruits, c'est qu'il est passé de l'égoïsme à l'altruisme. C'est tout ce qu'il fait pour ceux qui sont autour de lui ou pour les autres. Il a crucifié sa propre chair. Ce n'est plus seulement moi, mes besoins, mes problèmes. Non, c'est aussi je vais aider un tel avec son problème. Et là, on voit qu'on se détourne de soi-même et on commence à être attentif aux besoins des autres. Et lorsque vous commencez à être plus attentif aux besoins des autres qu'à vos propres besoins, Dieu va s'assurer que vos propres besoins sont pourvus. Apparemment, il y a peu de gens qui vivent ça. Lorsque vous allez vous attacher à répondre aux besoins d'autrui, Dieu va s'assurer que vos propres besoins sont pourvus. C'est la vérité. Certaines fois, la vérité est dure à entendre, mais elle libère. Elle affranchit. Et quand j'ai été ordonné pasteur, je me suis engagé direct. J'ai dit, là, ce que je vais prêcher, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mon opinion. C'est la parole. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour porter beaucoup de fruits? Ben, si vous combinez le fait de demeurer dans la parole et une bonne association autour de vous, vous allez automatiquement porter du fruit. Et on voit ça dans le psaume chapitre 1. Psaume 1. Va nous dire ceci, il y a l'image d'un arbre qui porte du fruit. J'ai beaucoup partagé sur ce passage récemment, décidément. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc là, on voit qu'il faut éviter ce genre de communion. Est-ce que ça veut dire que tu n'es jamais en relation avec ces personnes? Non, parce que Jésus nous a dit « Allez dans le monde !» Mais le cercle intime, les personnes que tu côtoies le plus ne devraient pas être des pécheurs et des moqueurs. Ça devrait être des gens matures dans le Seigneur. Donc là, il dit « De bonnes associations autour de toi, une bonne communion fraternelle autour de toi, c'est le premier point. » Après, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc quand on prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'on la médite jour et nuit, on demeure dans la parole de Dieu. Donc une bonne communion fraternelle au verset 1, de bonnes associations autour de soi, plus une vie dans la parole de Dieu égale cet arbre planté au verset 3 qui va donner son fruit en sa saison. Regardez ici. Vous associez ou vous multipliez la parole et les bonnes associations. Regardez ce qui se passe, verset 3. Il est comme, donc là il y a une image, il est comme, il y a une comparaison en français. Comme implique une comparaison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Voilà les trois critères donnés par Jésus dans l'évangile de Jean. Demeurer dans sa parole, avoir de l'amour fraternel, et porter beaucoup de fruits. Je termine ce matin en vous montrant la différence entre l'évangile que Jésus-Christ a prêché et l'évangile d'aujourd'hui, et vous allez voir qu'il y a un monde de différence, et vous allez comprendre pourquoi l'Église a perdu sa puissance et sa dynamique. Vous êtes prêts à voir ça? Nous devons comprendre. Quand je prends l'avion, j'aime que l'avion, il y ait deux ailes sur l'avion. Est-ce que je vole seulement avec une aile droite? Non, il faut deux ailes. Et les deux ailes de l'évangile, c'est l'évangélisation, amener des gens à Christ, et c'est les former pour devenir disciples. Vous ne pouvez pas dissocier ces deux choses. Vous ne pouvez pas dissocier la conversion à Christ de l'appel à la mission de devenir disciple. C'est impossible. C'est un évangile. C'est une seule chose qui, donc dès que quelqu'un vient à Christ, directement il est appelé à la mission de devenir disciple et d'en former d'autres. Et là, on le voit dans un petit schéma que j'ai fait. L'évangélisation ou la conversion à Christ plus le discipulat. Qui est un mot français, je ne sais pas vraiment si on le trouve dans le dictionnaire, pour discipleship en anglais, ou formation de disciples. Donc l'évangélisation ou la conversion plus le discipulat, devenir disciple, les critères que je suis en train de vous montrer, ces deux choses ensemble font d'un chrétien un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que sa vie, elle est transformée par l'évangile. Sa vie, elle est changée par l'évangile. Si vous étiez infidèle, maintenant vous êtes fidèle. Si vous faisiez des entourloupes dans les affaires, maintenant vous êtes droit dans les affaires. La vie change quand l'évangile entre en nous. Notre vie est transformée. Si vous vivez encore maintenant que vous êtes en Christ comme vous viviez quand vous étiez en Adam, c'est pas la relation avec Dieu, c'est une religion. Quelqu'un qui croit en Dieu mais qui vit comme le diable pendant la semaine, je suis désolé, c'est une religion, ce n'est pas l'évangile. Donc notre vie, elle change. Moi, j'allais boire des bières et draguer les filles quand je ne connaissais pas Christ. Maintenant, je suis à l'église le samedi soir et je suis avec ma femme. J'ai changé. Est-ce que les gens disent de vous que vous avez changé? Est-ce que les gens qui vous côtoient le plus sont en train de dire « Tu es en train de devenir une nouvelle personne, tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle créature. Est-ce que l'Évangile est en train de transformer nos vies ou pas ?» Si l'Évangile ne transforme pas nos vies, à ce moment-là, on est en train de vivre un Évangile qui n'est pas l'Évangile que Jésus a prêché. Je sais que c'est un peu difficile à encaisser. Je sais que je suis assez virulent comme type. Mais vous savez, quand je suis avec les gens, je suis agneau. Et quand j'exerce, je suis lion. Parce que je suis disciple de Jésus et Jésus, il est agneau, il est lion. Et quand je vais voir les gens ou quand je discute un avec les gens, je suis agneau. Mais quand j'exerce le ministère, je suis lion. Et regardez aujourd'hui à quoi ressemble l'Évangile. Les gens sont évangélisés, ils vont dire qu'ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas disciples. Ils ne sont pas en train de marcher à la suite de Jésus. Ils ne sont pas en train d'être transformés par l'Évangile. Et l'équation qui en résulte, ce n'est pas un disciple, c'est un croyant. Sa vie n'est pas transformée. Et on n'appelle pas ça la transformation, on appelle ça la grande omission dans l'Église. Ça veut dire que c'est le grand oubli. On est en train d'oublier la chose principale que Jésus nous a mandaté de faire. Donc, en tant que responsable, eh bien, on prend nos responsabilités pour faire des chrétiens des disciples. Et si je suis un chrétien ou un croyant, je prends ma responsabilité et je deviens un disciple. Et je suis en train de vous montrer les critères qui font de vous un disciple ou pas. Après, à chacun d'ajuster et de voir en quoi il est un disciple ou en quoi il est un croyant. Mais regardez, et je termine avec ça, et ça va vraiment vous éclairer, l'Évangile que Jésus-Christ lui-même a prêché. On va le voir dans Marc chapitre 1. Et ça, j'ai découvert ça cette semaine, ça m'a beaucoup aidé. Après, je vais vous montrer ce qui nous manque aujourd'hui. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, en parlant de Jean le Baptiste, Jésus alla dans la Galilée. La Galilée, c'est un peu le jardin d'Israël, c'est la région d'Israël qui est très composée de verdure et de fleurs. Vous savez, la Judée, c'est plutôt désertique, mais la Galilée, c'est fleuri, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il faisait en Galilée? Il prêchait l'Évangile de Dieu. Donc vous voyez que Jésus, il prêchait l'Évangile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui composait l'Évangile de Jésus? Regardons. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et là, il y a deux, et après, il va dire, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le premier élément de l'Évangile de Jésus que lui-même a prêché, c'est petit a, se repentir et croire à la bonne nouvelle. Premièrement. Deuxième chose qu'il va prêcher. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et regardez bien le verset 17, très important. Jésus leur dit, suivez-moi. Petit b de l'Évangile de Jésus, quelqu'un qui s'est repenti et quelqu'un qui a cru, il ne reste pas là. Il commence à suivre. Il commence à suivre Jésus. Peu importe le prix à payer, et je vais entrer dans ça la semaine prochaine, Jésus n'a jamais caché qu'il y avait un prix à payer pour le suivre, mais il n'a jamais caché qu'il y avait une rétribution pour ceux qui allaient le suivre. Qu'est-ce qu'il est bon, Jésus? Donc, pour ceux qui se sont repentis et qui ont cru en la bonne nouvelle de Jésus, la prochaine étape, c'est de suivre. Suivre le Maître. Et lui a dit à ceux qui avaient cru en lui, maintenant, la deuxième étape, c'est de demeurer dans sa parole, de suivre la parole, d'appliquer la parole, de la mettre en pratique. Ça, c'est la deuxième étape. Mais là, beaucoup, ça disqualifie déjà beaucoup de croyants ici. Hein. Troisièmement, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que là, il dit, pour ceux qui se sont repentis, ceux qui ont cru, ceux qui me suivent, maintenant, vous êtes mes disciples, je vous renvoie dans la moisson et vous allez poursuivre ma mission qui était de former d'autres disciples. Ça, c'est l'Évangile complet que Jésus a prêché en quelques versets. Premièrement, petit a, se repentir et croire. Petit b, suivre le Maître, suivre Jésus, devenir une reproduction du Maître. Et troisièmement, poursuivre sa mission, c'est-à-dire que ceux qui vraiment se considèrent comme ses disciples, ils vont à nouveau former d'autres, gagner d'autres pour Jésus et les former. Gagner d'autres pour Jésus. Est-ce que ça, c'est le travail des pasteurs? Le travail du pasteur, c'est de faire en sorte que les gens comprennent ces choses et de mandater toute l'assemblée à le faire. Parce que s'il y a une personne qui le fait, on va pas arriver loin. Mais on a mis par exemple des live groups qui sont des sujets qui parlent vraiment de devenir disciples. Et il y en a certains qui sont disciples et qui animent, d'autres qui apprennent. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Regardez l'Évangile version 2015. Je ne sais pas si on va le voir. Si tu peux mettre juste le dernier slide. Donc, j'ai déjà évoqué l'Évangile de Jésus. Se repentir, croire, suivre et poursuivre. Ces quatre éléments. Regardez l'Évangile d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur ce slide. J'ai enlevé le gras de se repentir, de suivre et de poursuivre. Et j'ai juste laissé le gras ici, sur croire. Ben aujourd'hui, on a des croyants. Eh bien, ils croient. Oui, mais tu crois en quoi? La Bible dit que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais vous savez quoi? Je crois que les démons, ils ont plus la crainte de Dieu que certains croyants. Et à en croire certains, vous savez, ce n'est pas compliqué d'être sauvé. La Bible dit de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche. Mais à en croire certains, si leur vie ne change pas, ils ont confessé de leur bouche, mais en réalité, ils n'ont pas eu la conviction dans leur cœur qu'ils avaient besoin de se repentir et qu'ils avaient vraiment besoin d'un sauveur pour les sauver de l'enfer. Je ne sais pas s'il y a eu ça. La repentance, c'est quoi? C'est avoir une conviction intérieure, une souffrance intérieure, que j'ai violé la loi de Dieu, que j'ai offensé Dieu, et que si je ne me repens pas, ça va être le feu éternel pour moi. Ça, c'est la repentance. Que nous avons tous violé la loi de Dieu. Et qu'il n'y en a qu'un qui ne l'a pas violé, c'est le Seigneur Jésus. Deuxième chose, une fois qu'on a vraiment été convaincu, et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les cœurs qu'ils ont besoin de se repentir et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ça, c'est la repentance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est repenti? On croit en la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Écoutez, quand quelqu'un a violé la loi française, il y a un jugement qui tombe sur cette personne. Soit c'est la personne même qui va être jugée, soit quelqu'un va payer à sa place. Selon la loi divine, nous avons tous violé la loi de Dieu, donc nous méritons tous le jugement de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un homme, fils de Dieu, et qui s'appelle Jésus-Christ, c'est lui qui a pris le jugement de Dieu pour les fautes ou pour les transgressions de la loi divine que j'ai commises. C'est lui qui a payé à ma place. Et en échange, moi j'obtiens la paix avec Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ésaïe l'a dit comme ça, le châtiment ou la punition qui me donne la paix avec Dieu, elle est tombée sur lui. Mais est-ce que j'ai compris ça? Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez être un croyant qui va rester mélo toute votre vie. Vous n'allez pas vraiment comprendre que vous avez été sauvé de la gêne et de la condamnation éternelle. Et là, vraiment, les ministres de l'Évangile, on a notre responsabilité de prêcher un Évangile à l'eau de rose. Mais là, vous savez, ça fait 2 ans que j'étudie ces choses. Et j'ai vraiment envie de préparer l'Église à devenir disciple. Parce que je pense que si j'ai établi pasteur, ce n'est pas juste pour prendre un micro et mettre un costume. C'est pour préparer l'Église Victoire Sainte Chrétien au retour du Seigneur. Dieu est un Dieu de miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas obtenir ce que nous méritions. En langage simple, je vous la fais courte, je méritais la croix. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc Jésus a été à la croix pour moi. Mais Dieu est non seulement un Dieu de miséricorde, mais il est un Dieu de grâce. Donc la miséricorde, c'est lorsque je n'obtiens pas ce que j'aurais dû mériter. Le châtiment de Dieu, le jugement de Dieu. Mais la grâce, c'est quoi? C'est que j'obtiens quelque chose que je ne méritais pas par mes propres forces. Donc si Jésus a obtenu la punition pour moi et son châtiment pour moi et le jugement de Dieu sur lui, moi, en échange, j'obtiens la paix, la vie éternelle, le pardon des péchés et le fait de demeurer avec un Dieu qui est 3 fois saint pour l'éternité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais je ne peux pas comprendre la grâce sans comprendre la miséricorde. Je devrais faire un message une fois là-dessus. L'articulation de la miséricorde et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est déclenchée par la miséricorde divine. Ça, c'est croire en la bonne nouvelle. Et vous savez quoi? C'est le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien. Jean 3, verset 36. La bonne nouvelle, c'est celui qui croit en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il ne verra point la vie. Écoutez bien, c'est le Nouveau Testament. On connaît Jean 3, 16, mais on connaît très peu Jean 3, 36. La colère de Dieu reste ou demeure sur lui. Parce que si tu n'acceptes pas le fait que la colère de Dieu a été prise par Jésus, elle demeure sur toi. Parce que nous avons tous violé la loi de Dieu. Vous voyez que la loi de Dieu, elle nous montre le standard, que personne ne peut être sauvé par ses propres moyens, qu'il nous a fallu un sauveur qui a accompli la loi divine. Et maintenant, vu qu'il a accompli, la justice divine a été satisfaite, et maintenant, il peut octroyer la grâce à ceux qui croient en cette œuvre de rédemption. Je suis en train de vous prêcher l'évangile que Jésus a prêché. Troisièmement, pour ceux qui se sont repentis et qui ont cru en l'œuvre rédemptrice de Christ, est-ce que j'attends le ciel? Est-ce que j'attends d'être sauvé et de partir? Non, je suis. Je deviens disciple. Je suis le maître. Je deviens sa reproduction. Je deviens son imitation. Je demeure dans sa parole. Je suis en communion avec d'autres disciples. Je porte beaucoup de fruits. Là, la prochaine étape, pour beaucoup d'entre nous, c'est ça. Et pour ceux qui se sont repentis, qui ont cru et qui ont suivi, c'est l'heure de poursuivre la mission de Jésus, c'est-à-dire gagner d'autres et les former à devenir disciples. Ça, c'est l'évangile que Jésus a prêché. Ce n'est pas juste croire. Croire, c'est un élément sur quatre, mais c'est souvent ce qui est prêché aujourd'hui. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi, mais je vous encourage dans cette dimension-là. Si vous voulez vivre l'évangile que Jésus a prêché, ne vous levez pas pour moi, ne vous levez pas pour votre voisin. Si vous pensez que c'est ce que Jésus vous demande, c'est trop et vous n'êtes pas prêt, restez assis, peu importe. Mais ceux qui veulent vivre cet évangile que Jésus a prêché, la repentance, croire en Jésus, le suivre et poursuivre sa mission, je vous demande de vous lever. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez vivre cet évangile, vous vous levez. Et on va prier ensemble. Alléluia! C'est l'heure de devenir disciple de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord que nous avons été rachetés à un grand prix? Que nous n'aurions pas pu arriver dans la présence de Dieu par nos propres forces? Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse s'engager à vivre vraiment l'évangile biblique. Et je vous pose cette question pour cette semaine. Est-ce que je suis en train de vivre l'évangile biblique ou je suis en train de vivre mon propre évangile? C'est quoi mon propre évangile? Ben, je prends seulement les parties qui m'intéressent et qui me font du bien, comme les promesses de Dieu, la guérison divine, la prospérité financière, mais les parties qui me dérangent un petit peu, je les laisse de côté. Mais vous savez quoi? Si vous faites ça, vous êtes en train de formater ou de formuler un évangile qui est le vôtre et qui ne vous amène pas à la transformation. Donc ma question est la suivante, suis-je prêt ou suis-je en train de vivre l'évangile biblique, l'évangile que Jésus a prêché, ou alors je suis en train de vivre mon propre évangile que j'ai ficelé avec mes versets préférés et j'oublie les parties qui sont plus dures. Je vous promets, la semaine prochaine, quand on va étudier Luc 14, Jésus, prêchons un peu les messages que Jésus a prêchés, vous allez voir, les assemblées vont commencer à s'affiner. Mais en même temps, c'est pour nous préparer. Prions ensemble. Et vraiment, utilisez vos propres mots. Si vous vous êtes levé, je n'ai pas besoin de vous diriger dans une prière, mais vivez ou dites au Seigneur que vous avez envie de vivre un évangile qui transforme la vie. Un évangile qui nous emmène vraiment dans les pas du Seigneur et qui nous amène vraiment à la transformation, à devenir disciple. Je vais faire une prière générale, mais vraiment faites-le avec vos propres mots. Vous êtes, je pense que vous êtes assez mature dans le Seigneur pour le faire. Moi, je vais prier pour l'Assemblée en général. Père éternel, je crois que cette série de messages que tu m'as donnée, ce n'est pas une série de messages qui est forcément facile à prêcher ou à enseigner et qui n'est pas forcément facile à recevoir. Mais Père, je crois que c'est ta parole et que c'est ta parole est une semence incorruptible. Et lorsque cette semence incorruptible est plantée dans des cœurs qui sont réceptifs, elle produit du fruit à 30, 60 et 100 pour 1. Et Père, je prie vraiment pour tous ceux qui se sont déjà repentis, qui ont cru en toi, que vraiment ils puissent maintenant marcher à ta suite et devenir vraiment disciples de Jésus. Et qu'ils puissent également poursuivre ta mission et enseigner d'autres, et gagner d'autres, gagner et enseigner d'autres, gagner et enseigner d'autres dans le nom de Jésus. Que vraiment nous puissions avoir une conviction par le Saint-Esprit dans nos cœurs, que Jésus revient bientôt et que son Église doit être préparée à son retour, parce que nous savons, selon Éphésiens 5, verset 27, qu'il revient chercher une Église glorieuse. Et moi, j'ai envie, je ne sais pas vous, mais j'ai envie de faire partie de cette Église glorieuse. J'ai envie de faire partie des disciples du Seigneur. Et je prie vraiment pour vous, que vous tenez ferme, que vous soyez fermement enracinés et fondés dans l'amour, fermement enracinés et fondés dans la parole de Dieu, fermement enracinés dans les promesses de Dieu, et que vraiment vous puissiez tenir ferme dans ces, peut-être ces saisons qui arrivent, qui seront peut-être moins évidentes. Mais merci Père, parce qu'il est fidèle. Et il a promis de ne pas nous abandonner. Il a promis de ne pas nous laisser. Il a promis de ne pas nous délaisser. Et Père, vraiment, que tu puisses venir à ceux qui ont besoin de réconfort dans le nom de Jésus. Vraiment, avec ton Saint-Esprit, venir avec ta douceur. Venir avec ton Esprit Saint, venir apaiser les cœurs qui ont besoin d'être apaisés ce matin dans le nom de Jésus, pour des raisons qui sont peut-être qui nous ne sont pas connues, mais qui ont besoin du réconfort du Saint-Esprit. Hallelujah. Alors que les musiciens vont commencer à jouer, je vais poser cette question à celles et ceux qui ne se sont pas encore repentis et qui n'ont pas encore vraiment cru. Quand Jésus, nous étions sauvés, j'aimerais vous donner l'occasion. Je vous ai expliqué en quoi ça consistait de vraiment croire en Jésus. Et là, c'est vraiment à celles et ceux qui savent qu'ils ne sont pas sauvés ou qui n'ont jamais entendu l'évangile de Jésus, l'évangile complet. J'aimerais vous donner l'occasion de pouvoir le faire ce matin. Donc, Nathalie est à votre disposition. Elle va venir là, à ma gauche. Elle va vous conduire dans une prière. Elle va vous aider à vraiment donner votre vie à Christ. Comme nous l'avons chanté, « Je te donne ma vie ». Oui, c'est ça. Il a racheté nos vies par son sang. Et vous allez avoir la certitude dans votre fort intérieur qu'avant vous étiez condamnable aux yeux de Dieu, mais que maintenant vous avez été innocenté et que vous êtes justifié au nom de Jésus et que la condamnation de Dieu ne repose plus sur vous, mais que la vie éternelle vous appartient, que le pardon des péchés vous appartient.